On sait que chaque été s'est tendu à l'hôpital. Là, en plus, on traverse des canicules, donc ça donne du travail supplémentaire aux soignants. Et puis, on apprend que il y a plusieurs services d'urgence dans les campagnes, dans les villes moyennes, qui sont obligés de fermer. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il faut habiter dans une grande ville aujourd'hui pour se faire soigner? Nous sommes avec Laetitia Lafour, Laetitia Lalou, bonjour. Vous êtes secrétaire générale FO du Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers. Nous sommes donc du côté
L'Orne.
De l'Orne, qui est en Normandie, comme chacun sait. Expliquez-nous ce qui se passe.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur l'hôpital de Mamers, donc il couvre au niveau des urgences et le SMUR, le Nord-Sarthe et des communes du Sud-Orne, on nous a annoncé la fermeture de ce service à compter d'aujourd'hui.
D'accord.
Donc, vous imaginez bien que vous parliez tout à l'heure Orne-Sarthe. En fait, nous, on est à peu près à 20-25 kilomètres de l'hôpital d'Alençon, qui est en fait fusionné avec l'hôpital de Mamers depuis plus de 20 ans. Et donc, en fait, il compte sur le territoire d'Alençon pour venir couvrir les communes dont je viens de vous parler, hein, donc du Nord-Sarthe et de...
Et dans l'autre sens, c'est quoi? C'est quoi dans l'autre sens? Le Mans?
Le Mans, ah oui, voilà, c'est ça, c'est le Mans. Le Mans qui est
donc,
déjà...
Donc, il y a plus d'urgence entre Le Mans et Alençon?
Alors, il y a des services d'urgence comme Mortagne-au-Perche, La Ferté qui est ouvert que la journée. Mais en fait, par exemple, vous voyez, on nous avait dit, si Mortagne-au-Perche viendra, on apprend aujourd'hui que Mortagne-au-Perche est en SMUR limité, c'est-à-dire qu'il interviendra dans les 10 kilomètres autour de chez lui et qu'en plus, on détache une équipe du MHP. Donc, ça veut dire une équipe paramédicale.
Mais
donc,
pourquoi
nous aider sur le secteur.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de personnel?
Ah oui.
Alors nous, le personnel paramédical avait armé son service pour tout l'été, c'est-à-dire qu'ils avaient blindé leur planning, ils avaient accepté de reprendre des heures supplémentaires avec des plannings à 60 heures semaine, à 200 heures mensuelles. On nous dit aujourd'hui que c'est un problème d'effectif médical. Nous, on sait que c'est faux. Il ne restait plus que 4 jours à remplir.
Quelle est la raison selon vous alors?
Eh bien, c'est qu'on veut faire disparaître les urgences de campagne. Ça fait plus de 3-4 ans qu'on essaie de fermer ces urgences de Mamers. On fait par tous les moyens. Là, on sait qu'il y a un mois, l'ARS et puis le directeur de l'hôpital ont rencontré le maire de Mamers pour fermer au moins les urgences de nuit. Ça a été refusé. Donc nous, en fait, on a commencé à dire, allez, on va faire un mouvement de grève pour leur montrer qu'on n'est pas d'accord. Le lendemain, on nous dit, non, c'est bon, on touche plus du tout aux urgences de Mamers. Et 3 semaines après, on apprend quoi? Fermeture au moins.
Alors, quelles conséquences pour les patients?
Quelles conséquences pour les patients? Eh bien, déjà, ils vont se rendre devant un service des urgences qui est complètement fermé. Il n'y a même pas une équipe paramédicale pour l'accueillir. Donc, voilà. Donc, vous faites une crise cardiaque devant les urgences, on fait quoi?
Il faut aller où, alors? Je pense que c'est plus général que votre cas personnel. C'est quand même une volonté globale de renforcer les équipes héliportées, d'en avoir plus que des CHU et de fermer les urgences en milieu rural, mais de façon globale et définitive, quoi.
Oui, mais monsieur, c'est bien beau l'héliporté, d'habiter en ville, etc., mais il faut venir dans la réalité de nos campagnes. Qui vivent sur de la terre battue, alors on nous parle, nous, des réseaux, des téléphones portables, de tablettes, de tout ça, c'est des personnes, ils ne savent pas se servir de tout ça. La vraie vie, c'est celle-là, c'est celle que nous, on connaît. Mmh. On a nos écoles primaires, on a nos collèges, on a nos lycées.
Donc on est en train d'isoler un peu plus encore les gens qui habitent la
fracture,
la campagne, quoi.
La fracture des gilets jaunes, la fracture des gilets jaunes, elle se creuse.
Pour vous, madame, donc c'est une volonté de l'ARS et vous remontez plus haut, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des directives du ministère de la Santé transmises aux ARS pour avoir cette politique d'accentuation de la désertification médicale, puisque par ailleurs, les ministres macroniens nous expliquent qu'au contraire, ils luttent contre la désertification médicale.
Alors moi, madame, je vais vous répondre quelque chose tout simple. Moi, la politique, FO est un syndicat apolitique. Je me fous de que ce soit Macron, que ce soit... Voilà. Moi, ce que je dis aujourd'hui au ministère de la Santé, c'est qu'ils sont en train de sacrifier des vies au profit d'autres. C'est-à-dire qu'on choisit des territoires par rapport à un autre. Moi, je m'en fous de la politique aujourd'hui. Je veux que les gens qui sont sur le terrain, ils prennent leurs responsabilités et qu'il y ait des vies de sauver. Moi, le reste, ça m'intéresse pas.
Ah oui, mais voilà, enfin, les ordres, ils viennent bien. Oui, d'accord, ça, j'entends bien.
Mais les ordres, madame,
les ordres, ils viennent d'où?
Mais moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les papiers.
Bah, si, les ARS.
Vous me parlez
stratégie.
De l'ARS. C'est l'ARS, la santé. L'ARS, elle prend ses ordres d'où?
Excusez-moi, madame, vous me demandez qui est venu. Moi, je vous réponds que c'est l'ARS. Vous demanderez à l'ARS qui doit donner ses ordres.
Oui, et c'est l'ARS. De toute façon, l'ARS dépend du ministère de la santé.
Eh bien,
on est d'accord. Eh bien, chacun est capable de faire le lien.
Alors après, on peut imaginer aussi qu'il est peut-être préférable de regrouper les services dans des CHU bien équipés, avec des moyens, avec du personnel.
Et que c'est peut-être plus facile tous les quatre départements.
C'est peut-être plus facile à gérer que.
En même temps, j'arrive pas.
Bah oui, c'est Didier Giraud qui est assez pénible pour ça. Donc je répète, est-ce qu'on peut imaginer que c'est peut-être plus efficace de regrouper des services dans des CHU bien équipés, bien dotés, avec du personnel présent, même s'il faut faire quelques kilomètres de plus pour aller se faire soigner, c'est sûr.
Bien sûr que non. Je pense que les structures, en tout cas, moi je parle pour ce que je connais, j'ai été plus de 20 ans infirmière à l'hôpital de Mamers. C'est un hôpital de proximité qui est labellisé. On prend très bien les gens en charge, pas trop loin de chez eux. Ils ont leurs repères, ils ont leur famille qui peut venir, ils ont plein de choses en fait. Parce que vous savez, prendre en charge, oui, on a l'urgence vitale, mais à côté, le prendre en charge, c'est aussi la prise en charge globale du patient, le social, le sanitaire, etc. Mmh. Donc pour moi, non, les hôpitaux de proximité ont toute leur place au sein du territoire dans la prise en charge globale du patient.
Et sur votre territoire médical, quelle est la situation au niveau des maternités ?
Alors, il nous reste celle de l'hôpital d'Alençon. Par contre, là où on est en grande détresse, c'est notamment en service de pédiatrie, puisqu'on n'a pas d'urgence pédiatrique la nuit.
Ouais, ça, c'est vrai. Voilà. Non, merci Laetitia Lalou d'être avec nous. On va remercier madame. Merci de nous avoir expliqué la situation d'Alençon-Mamers. Mais il y en a d'autres. Hein. Par exemple, à Dinan également, aussi, on va fermer les services d'urgence cet été.
C'est tous les étés qu'on fait ce sujet-là. Et je trouve que le maillage, il se détricote tout petit doucement, puisque systématiquement, on ferme d'abord les nuits et puis ensuite dans des plus longues périodes les étés. Je trouve qu'il y a une vraie volonté de détricoter le maillage des urgences et il y a quelque chose d'assumé, puisque dans les CHU on met deux hélicoptères là où il y en avait un seul il y a 10 ans. Donc à un moment donné il y a aussi quelque chose d'assumé de dire on ferme les urgences dans des endroits où ça marche bien.
Et moi t'es le même à te plaindre des finances publiques qui sont mal gérées. C'est aussi des questions de moyens qu'on gère.
Mais les finances publiques, donne-moi le crayon, puis tu vas voir. Oui. Je vais te dire on va les enlever.
Oui,
quoi.
Il y aura la toujours question... une raison de pas
parce que
enlever.
Là, les applications concrètes, je vais te les donner. Quoi. Il y a vers chez moi ce printemps un mec qui s'est fait encorner. Le temps que les urgences arrivent, que l'hélicoptère arrive, c'était trop tard.
Attends, encorner, ça veut dire
une corne de taureau. Voilà.
À quel niveau de son corps?
Dans une cuisse, donc
l'artère fémorale.
Et pourquoi ça a mis trop de temps à l'intervention?
Oui, parce que tant qu'arrive un hélicoptère qui vient de 150 bornes, c'est trop tard, quoi.
Et la question majeure, surtout, c'est le vieillissement de la population. Donc, avec une population qui vieillit aussi beaucoup dans les campagnes, dans les zones, mais bon, on le sait, désert médical, c'est 100% du territoire, mais dans les zones... Donc, il faut une politique, me semble-t-il, de projection, une stratégie. Ça passe donc par former plus de médecins. Qu'est-ce qu'on nous a dit en 2012, en 2017, en 2022? Oui, mais ça se forme pas en 5 minutes, un médecin, faut 10 ans. Oui, alors depuis le temps qu'on nous dit ça, ça en fait 15. Alors, excusez-moi.
Non, pour le coup, ils ont enlevé le numéro.
Ils n'ont pas enlevé le numerus clausus. Si. Alors, il faut que tu te renseignes sur...
Non.
Alors, excusez-moi. Je suis très renseignée sur les études de médecine, donc, et je peux vous le dire, il n'y a aucun changement sur le nombre d'étudiants qui obtiennent la première année de médecine. On est exactement toujours sur le même nombre. Ils ont juste changé le nom, mais c'est toujours pareil. On continue à limiter le nombre de jeunes Français qui ont le niveau, qui sont motivés pour devenir médecin et qu'on vient fracasser sur la première année de PACES. Il va y avoir l'année prochaine la réforme des études de médecine qui va encore accentuer les problématiques de pénurie. Il y a aussi une volonté dans ce pays de limiter le nombre de jeunes médecins français, parce que on préfère faire venir des médecins dépeuplés, notamment les médecins africains, pour les payer au lance-pierre et moins cher, avec des statuts inacceptables dans l'hôpital public. Ouf. Alors qu'on pourrait avoir des médecins formés en France.
Alors, Barbara, le nombre de médecins a augmenté l'année dernière. De 2%, c'est peut-être pas suffisant, mais...
Ça n'a rien à voir avec la politique des urgences, tout ça. Hein.
Non, mais si, parce que tu m'équipes. Il faut des médecins dans les services d'urgence.
Elle te l'a dit. La dame qu'on a eue au téléphone de FO, c'était pas un problème d'effectif. Les gens avaient accepté de tenir les urgences, même si c'était au détriment de leurs heures de travail. Ils avaient accepté de tenir les urgences tout l'été. Et si on a fermé les urgences, c'est parce qu'on a une volonté. C'était pas un problème d'effectif.
Mais il y a un problème plus global d'effectif.
Mais bien sûr qu'il y a un problème d'effectif. Mais ce que je veux dire, c'est que la stratégie de détricoter le maillage des urgences, il n'est pas forcément lié au nombre de médecins.
Je n'ai pas dit le contraire, mais ce facteur, plus un autre, plus un autre, oui. plus évidemment celui oui, du vieillissement de la population.
Ça devient obligatoire.
Et d'un nombre de médecins qui ne cesse de baisser ou qui augmente d'à peine 1 ou 2%. Excuse-moi, la situation va être catastrophique.
Caroline est avec nous, elle nous appelle de Lozère. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Alors, ouais, c'est marrant, tiens, les urgences. Est-ce que vous êtes aussi concernée par ces services d'urgence qui ferment l'été chez vous, de votre côté?
Oui. Et puis alors, j'ai tout englobé, mais c'est les services d'urgence, donc de l'hôpital de Mende ou de ceux de Saint-Flour dans le Cantal, parce que je suis entre les deux. L'été, ça se travaille par demi-journée, en plein été. Pourtant, c'est une zone un peu touristique. Mais l'accès aux soins, c'est le désert médical, c'est au-delà de tout ça. Moi, c'est ce que j'expliquais, je suis polypathologique, j'ai plusieurs problèmes de santé, je suis reconnue en ALDM, DPH, etc. À l'hôpital, je vais parler uniquement de l'hôpital de Mende, hein, je vais même pas parler d'autre chose. À l'hôpital de Mende, les urgences sont ouvertes par intermittence. Quand vous arrivez aux urgences, et ça je l'ai vécu en direct, hein, il fallait faire une échographie, il n'en avait pas.
D'accord. Et rappelons que Mende, c'est quand même la préfecture du département de la Lozère. C'est pas la petite ville du coin, quand même.
Il n'en avait pas parce qu'il était cassé ou il n'en avait pas tout court?
Alors, ils avaient pas ils avaient pas de radio parce que c'était cassé et ils avaient pas d'échographie parce que l'échographe n'était pas là et qu'une échographie ne peut être faite que par un médecin et que le médecin en pleine nuit n'était pas là.
D'accord. Et alors, comment ça s'est terminé tout ça?
Je suis partie à Montpellier.
Ah oui, d'accord. Voilà. Et combien de kilomètres pour aller à Montpellier?
Ah non, on parle pas en kilomètres, c'est comme en Corse, là, en Lozère. Hein, oui. On parle en temps.
Donc, c'est combien de temps? 2h30, ah oui. Il faut pas avoir un problème
avec
urgent,
une pathologie cardiaque quand même. Hein.
Alors moi, voilà, j'ai plusieurs pathologies, et là, en l'occurrence, c'était pour un ulcère hémorragique.
Carrément.
Là, on touche de près quand même la limite de tout ça.
J'ai besoin d'un cardiologue. Et là, je voudrais quand même le raconter, parce que ça, c'est quand même assez phénoménal. Chaque année, je rappelle l'hôpital de Mende, chaque année, parce qu'il y a qu'un seul cardiologue pour toute la Lozère. Et quand j'appelle chaque année au mois de janvier, donc là, j'ai encore appelé, et là, j'ai même une trace écrite par mail, on me dit, rappelez l'année prochaine, il n'a aucune disponibilité pour toute l'année.
Ah oui.
Alors, j'appelle les départements voisins, comme l'Aveyron ou le Cantal, et là, les secrétaires médicales au téléphone ont pour ordre de nous expliquer qu'en fait, elles n'ont pas le droit de nous donner de rendez-vous parce qu'on est hors département. Voilà où nous en
c'est
sommes.
C'est une honte, mais c'est une honte.
Merci, Caroline, pour ce témoignage. C'est assez accablant, effectivement. Mais
il y a quand même une France de seconde zone, là.
Oui. Mais c'est la faute à personne.
Non, ce qui n'est pas possible, c'est que ces personnes-là payent aussi des impôts. C'est-à-dire que tu payes les mêmes impôts qu'une personne qui vit dans une grande ville et t'as pas les mêmes services. Bon, on aura l'occasion d'en reparler.